RMC.
Comme je dis souvent, le football, c'est un éternel reprouvement.
Il ne faudrait pas que le doute s'accapare dans nos têtes.
Le Super Football Show.
C'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais à force de dire que si... Moi, en tout cas, avec des si, je coupe du bois. Mais...
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Jean-Louis Tour.
Avec Pierre Ducrot et Jonathan McCarty en ce lundi soir, c'est le moment de faire notre tour d'Europe habituel. Les drôles de dames avec leur avis tranché, avec leur actu du week-end également. Fred Hermel est avec nous en Espagne. Salut Fred.
Hola chicos.
Philippe Auclair en Angleterre. Salut Philippe.
Bonsoir les amis. Bonsoir Pierre. Bonsoir Jonathan. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir à tous et à toutes surtout.
Simone Rovera pour l'Italie. Salut Simone.
Ciao, buonasera, bonsoir.
Et l'homme qui déteste le foot le lundi, David Lorto en Allemagne. Salut David.
Et encore ce soir. Ah ouais. Ce soir, moins 13 degrés, alors pour une pression, c'est pas possible. Tous,
ouais, ouais, et le dimanche soir, il fait moins 13 aussi. Hein.
Oui, mais bon, mais c'est pas le lundi.
Mais on rappelle, bonsoir, messieurs.
La semaine dernière, on a découvert que l'Allemagne détestait les matchs de foot le lundi. Et
comme nous, à une époque, moi je me rappelle quand je jouais en Ligue 2 au Havre, c'est là qu'arrivent les matchs du lundi soir.
Ah ouais?
Et je me rappelle que les supporters, effectivement, et à juste titre, je pense, et comme le vendredi soir, rappelons-nous des premiers matchs le vendredi soir aussi en France, hein. Les supporters n'aimaient pas ça, parce que bah, les gens travaillent et que c'est compliqué pour eux de se déplacer, d'aller voir les matchs, etc. quoi.
C'est vrai, effectivement.
Mais vous savez quoi, oui. Messieurs, il y a eu ce soir à Dortmund la plus faible affluence depuis exactement 20 ans.
Oui, il y avait un boycott, une grève, non?
Mars 1998, 54 300 personnes ce soir, donc il manquait pratiquement 30 000 personnes.
Ah, c'est bien quand vous boycottez en Allemagne. Et nous, quand on boycotte en France, t'as 300 personnes. Hein.
Oui, mais bon, ça fait. Il y avait quoi,
27 000
personnes de moins.
Ouais, quand même, quand tu boycottes pas, effectivement.
On en parlera plus tard.
On y va, les avis tranchés des drôles de dames, évidemment. Ça permet de revenir sur le week-end européen. Et on commence par l'Angleterre. Jingle Philippe Auclair.
Attends. La main de Thierry Henry, c'est pas la main du diable également?
Et là, Philippe, tu veux nous parler du match de la honte pour...
Oui, du match de la honte, dans la mesure où ce que j'ai vu hier à Wembley, proposé par une équipe qui a été championne d'Angleterre il n'y a pas si longtemps que ça, enfin bon, ça commence à faire un petit peu de temps maintenant, mais qui était tenante de la Coupe, une équipe qui signifie beaucoup pour tellement de monde, que ce soit en Angleterre ou sur le reste de la planète, a fait une démonstration de ce que l'on ne doit surtout pas montrer, d'un manque de courage, d'un manque d'application, d'un manque de préparation, d'un manque d'esprit, d'un manque de tout, en fait. Vous pourriez prendre des termes plus usés, peut-être, que ceux qu'on utilise aujourd'hui, mais ce que j'ai vu, c'est une équipe qui, en effet, m'a fait honte.
En principe, qu'on parle d'Arsenal, hein, parce qu'on n'a pas encore cité le nom du club. Hein,
mais je crois qu'on avait. Le problème, c'est que la honte, c'est qu'on n'avait pas besoin de citer le nom du club.
Oui, t'as raison.
C'est qu'on savait qu'il s'agissait d'Arsenal, qui était face à l'équipe de Manchester City, qui a commencé ce match, cette finale de Coupe de la Ligue, je dirais pas dans la meilleure des formes, qui a douté pendant 10-15 minutes, qui s'est vu offrir un but tout fait par Shronan Mustafi. Champion du monde allemand, mais qui a oublié des règles qu'on apprend en pupille. Et encore, quand tu arrives en équipe de pupille et que tu connais pas cette règle-là, je pense que tu aurais des problèmes pour être dans l'équipe, voire dans l'équipe B, l'équipe C ou sur le banc de l'équipe C. Mais ce qu'on a vu, c'est tout simplement ce qu'on appelle dereliction of duty, c'est-à-dire un abandon de poste de la part des joueurs d'Arsenal, un scandale, une honte. C'est pas un mot que j'utilise très souvent, Jean-Louis, hein. Je fais très attention à utiliser ce type de terme de la même façon que je dirais jamais le football c'est la guerre ou un truc comme ça. Quand tu parles de honte, non, la honte c'est quand tu tournes le dos, quelqu'un te sonne ouin et que tu choisis de fuir. Gardons les choses en proportion, mais ce que j'ai vu au terme de football hier dans une finale à Wembley de la part d'Arsenal, c'est tout simplement inexcusable et c'est la fin de Wenger. Point barre. Parce que là, François, Jonathan, je me tourne vers vous.
Je sais pas qui est François.
Pardon.
Je sais pas qui est François. Je pense que c'est Pierre.
Pierre, excuse-moi. J'ai pensé à François Malardeau, mais
il y a pas de souci, on adore François.
Excuse-moi, Pierre. Mais Pierre, Jonathan, je me tourne vers vous. Il y a un moment où on n'en peut plus de ne plus en pouvoir. Je crois que le moment est venu hier. Je crois que même Arsène lui-même s'en rend compte. Sa conférence de presse était complètement incompréhensible dans la mesure où il s'en prenait à des gens qui n'existaient pas. C'était un Don Quichotte qui se lançait vers des moulins qui s'était enfui en fumée depuis un bon bout de temps. qu'il a encore essayé de défendre ses joueurs qui étaient indéfendables. Ce qu'on a assisté, c'est tout simplement, c'est la fin d'un club.
Bah,
c'est la fin d'une équipe. La fin d'un club, non. Parce que le club, il est né il y a très longtemps et il revient. Voilà.
Mais
et la fin d'une
c'est
équipe.
La fin d'un cycle, d'un très long cycle qui aurait dû se finir il y a un moment déjà.
Qu'est-ce que ça fait mal, Jonathan? Qu'est-ce que ça fait mal?
Bah oui. Mais surtout que, enfin, pour en revenir purement sur le factuel, sur le match, City n'a même pas été extraordinaire.
Ah non, ils ont été,
moyens.
Et moi, ils ont gagné 3-0 les mains dans les poches.
Ce que je trouve étonnant, c'est de voir le manque de réponse tactique que Wenger, de la part de Wenger. T'as l'impression qu'il a fait un mercato avec des nouveaux joueurs qu'il arrive pas à intégrer alors que c'est quand même des joueurs de qualité. T'as toujours des problèmes, des grandes largesses défensives alors que bon, les défenseurs, j'ai du mal à croire, même si leurs performances sur le terrain sont catastrophiques, j'ai du mal à croire que ce soit leur réel niveau. Et j'ai vraiment du mal à comprendre comment jouer Arsenal. Avant Arsenal, qu'est-ce que c'était? C'était un style, Philippe, on est d'accord.
Mais
Arsenal,
le style n'existe même plus. Le style n'est même plus là.
Arsenal avait un style fou sur le terrain. Mais là, le style, il n'y a plus rien, c'est de la bouillie.
C'est très très dur et je peux pas ne pas peser mes mots quand je vais parler d'Arsène Wenger parce que c'est un moi quand j'ai joué qu'un an en Angleterre mais toutes mes années de footballeur professionnel je regardais Arsenal parce que c'est les grandes années Arsenal donc j'ai forcément énormément de respect pour Arsène Wenger pour ce qu'il a fait dans des moments pas faciles avec Arsenal mais ça ressemble là depuis 2-3 ans maintenant. Tu sais, c'est un peu comme quand t'as un grand joueur qui a fait de nombreuses années dans un club et tu peux pas t'en séparer parce que il a trop fait dans le club et qu'à un moment donné ça serait forcément incorrect de s'en séparer.
Tu sais ce que ça serait le surnom de Wenger là?
Il faut le faire.
Le surnom ça serait Papy fait de la résistance parce qu'il est clairement dépassé.
Ouais, mais tu vois, il est pas tout seul à faire de la résistance. Je pense que pour qu'il reste là, il y a des dirigeants qui sont d'accord, et forcément. Donc c'est quelque chose qui
le seront très longtemps.
Compliqué, non,
ouais. Ouais, mais c'est pas qu'ils le sont très longtemps.
Non, mais
ça
aurait dû.
Et là, tu vois, en plus le truc c'est que
ça aurait dû être fait avant, Philippe, déjà.
Oui, on est d'accord.
Mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce qu'il y a cette histoire, quoi.
Ce qui est douloureux, c'est que la fin est lente, en fait.
C'est une agonie. Tu vois, c'est même pas une fin, c'est une agonie.
Infinie. Oui, voilà, ça, c'est une agonie. Si t'avais une saison catastrophique où tu finis dixième, éliminé de tout.
La saison passée, elle est sauvée par la finale, elle est sauvée par la FA Cup.
Ouais, mais c'est la même chose.
Oui, mais t'arrives toujours plus ou moins à sauver tes saisons, là, depuis 2-3 ans.
Mais là, c'est là où je me fais un petit peu plus dur. C'est dans la mesure où je comprendrais que l'on ait ce type de réserve par rapport aux critiques qui sont émises sur Arsenal, si nous parlions d'un club qui n'avait pas les moyens. Dans le cas d'Arsenal, nous parlons du sixième club le plus riche du monde. Le sixième club le plus riche du monde. Donc, vous pouvez retirer le Bayern, le Barça et le Real Madrid. Donc, c'est le troisième club le plus riche d'Angleterre. Aujourd'hui, ce que je vois, c'est un club qui, au niveau de jeu qu'il propose, mais surtout au niveau de ce que les joueurs proposent sur le terrain, c'est, comme on l'a déjà dit, une démission. C'est une honte. Il n'y a pas d'autre mot que la honte.
Bon, après, ton classement, Philippe, dire que c'est le troisième plus riche, à partir du moment où ils investissent pas tout ce qu'ils ont, tu vois, quelle valeur donner à ça?
Je peux te dire qu'il y a des clubs qui ont beaucoup moins d'argent qui est disponible. Je pense à Tottenham, par exemple. Ouais.
Non, l'argent est mal utilisé.
Et ce qui est terrible, Philippe, c'est que il y a des années où Arsène Wenger avait beaucoup moins d'argent à sa disposition, où le club avait beaucoup moins d'argent, et ça marchait beaucoup mieux.
Saison 2007-2008, par exemple. Moi, je resterai. C'est une saison qui me hante parce que c'est celle où je pense que le projet wengerien de, on a des joueurs qu'on forme par le club, la jeunesse qui va s'épanouir à travers espèce de chemin commun et pratiquer un football un petit peu comme les joueurs de l'Ajax le faisaient, comme les joueurs du Barça l'ont fait. Ce projet n'est pas arrivé à maturité. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est tout simplement embarrassant. Et quand je vois un Wembley qui, au coup de sifflet final, est à moitié vide parce que les supporters de l'équipe qui a perdu sont déjà partis, ce que je n'ai jamais vu dans ma vie.
Ça n'arrive pas normalement.
Ça n'arrive jamais. Et que tu n'as même plus de critique. Mais tu es simplement, tu te dis, mais c'est fini. Et c'est le match de la honte. Alors, et là, franchement, moi, je n'en peux plus. C'est pas vous savez, je me suis jamais caché de mes sympathies pour les Gunners. Ça fait plus de 30 ans que je suis un fan d'Arsenal. Tout le monde le sait. J'essaye de faire en sorte que ça ne se sente pas quand je parle du club à l'antenne. J'essaie de
faire ses objectifs. Là, on sent un peu, hein, Philippe. On sent que
tu sens des amours. Je suis triste, mais comme je serais triste de la même façon que je serais triste si je voyais Manchester United ou Manchester City ou Liverpool ou un grand club anglais, Everton, ouais, peu importe, dans la même situation. Là, je vois un club qui est en train de perdre simplement ce qu'il représente, un club dont les supporters ont eu honte.
Mais alors justement,
rien de pire. Pardon.
Je voudrais donner la parole à Dimitri qui est avec nous, supporter d'Arsenal au 32-16. Dimitri, bonsoir.
Bonsoir.
Sache que on va essayer de te remonter le moral avec un cadeau. Deux places pour aller voir le film de la semaine. Il s'appelle Hurricane. C'est par le réalisateur de Fast and Furious. Donc, c'est déjà ça, Dimitri.
Alors, écoute, Jean-Louis, excuse-moi de t'interrompre, mais tu offres à un auditeur fan d'Arsenal deux places pour un film qui porte le nom du surnom du buteur de Tottenham.
Oui,
là, je suis désolé,
désolé,
c'est insupportable.
Bah, j'y peux rien, moi.
C'est une indélicatesse, Jean-Louis. C'est indélicat.
Mais énervez-vous sur le réalisateur qui a choisi ce film, ce type de film. C'est rien, moi.
Non, mais bon, c'est une blague.
Mais oui, j'ai bien compris.
Bon, Dimitri. Maintenant, on ne peut plus jamais rigoler.
T'as entendu l'avis de Philippe, Dimitri?
Oui, et ce que j'ai à dire, c'est que je suis complètement d'accord avec Philippe. C'est que moi, ça doit faire, j'ai 20 ans, ça doit faire une dizaine d'années que je suis de près Arsenal. Oui. Et depuis 10 ans, ben, c'est la chute vertigineuse, on va dire. Hein. On va dire que depuis... Comme parlait Philippe tout à l'heure, je me souviens très bien de la saison 2007-2008, où les Gunners réalisaient une très très bonne saison jusqu'à la blessure de, je sais pas si vous vous souvenez, d'Eduardo, cet attaquant.
Oui. Adorning
et Ouais, voilà. Je me souviens, elle réalisait une très très bonne saison, et même après, on y croyait encore avec toutes les années, notamment Nasri ou Van Persie, etc. Mais j'ai l'impression que depuis 3 ans, le club il est à l'abandon et que Wenger, même si j'ai toujours été un grand fan de Wenger, c'est lui qui m'a fait aimer ce club.
Faut que ça s'arrête.
Faut que ça s'arrête.
Ouais, faut tourner la page.
Qu'est-ce qu'on peut imaginer à court terme là, pour la fin de la saison? Est-ce qu'il reste? Est-ce qu'il part? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive?
Il restera.
Mais pour la saison prochaine.
Mais moi, c'est ce que j'avais envie de te dire. Alors Philippe aussi, parce que t'as de l'affection pour ce club, mais aussi à Dimitri. Ça, c'était Dimitri. Hein.
Ouais.
C'est qu'Arsenal va rester Arsenal. C'est que là, on arrive au bout de quelque chose et c'est presque tant mieux. Le plus dur est passé. J'ai envie de te dire que là maintenant Arsenal va redevenir Arsenal. Ça va repartir sur autre chose et puis ça va être forcément mieux que ce qu'on a vu ces 3-4 dernières années. Donc voilà, faut garder un peu de baume au cœur. Ça va aller.
C'est la positive attitude de Pierre Ducrot.
Bah oui.
Bon bah Dimitri, bon courage. Hein.
Ouais, on va essayer.
Bonne chance à toi, Dimitri.
Ils sont pas convaincus, j'ai essayé, mais
non. Pas trop. Là, c'était plein de bonnes intentions, Pierre, mais bon. Dimitri, à bientôt dans l'after.
Oh mon Dieu.
Merci.
Salut.
Messieurs, il y a quelque chose que je comprends pas très bien, moi. Alors, je comprends bien le décalage et la déception qu'on peut avoir entre un budget et une somme d'argent conséquente et les résultats à l'arrivée. Il y a un décalage. Arsenal n'est plus champion depuis des lustres. Mais, quand on dit un club à l'abandon, mais des clubs comme Nottingham Forest ou Leeds ou dans d'autres pays qui sont descendus en 2, en 3 ou en 4e division, vous en faites quoi dans ce cas-là?
Dans le cas précis d'Arsenal, le problème, David, pour moi, c'est le fait que ces clubs comme Nottingham Forest, comme Derby County, comme Aston Villa, etc.
Oui,
il y a eu une crise financière qui a précipité. Il y a eu une crise sportive, une crise financière qui sont allées de pair et qui ont précipité la descente en deuxième division. Et Dieu sait qu'il y en a de ces clubs, Leeds United. Bon, il y en a tellement en Angleterre.
Oui.
Et comme il y en a chez toi en Allemagne également. Ça n'est pas le cas d'Arsenal. Arsenal, au niveau financier, a toujours été là. Le problème, c'est qu'on a une situation, une espèce de ça perdure. On a cette espèce d'entropie qui s'est mise dans le club, de dessiccation, de décomposition lente. Et ce qu'on a eu ce week-end, et c'est pour ça qu'on en parle ce soir, parce que vous avez sans doute remarqué que je n'ai très très peu parlé d'Arsenal depuis le début de la saison,
oui.
Puisqu'Arsenal n'est pas dans le coup pour quoi que ce soit. C'est le fait que nous avons assisté, ce que j'appelle, au match de la honte. Ouais. À savoir que le moment où tes joueurs, tout simplement, ne répondent plus présents. Les joueurs de Crystal Palace, qui se sont fait battre à la 88e minute par Tottenham, sur leur terrain, ont répondu présents à l'appel de Roy Hodgson en l'absence de 11 titulaires. Les joueurs de Arsène Wenger n'ont pas répondu présents à ce qui était un non-appel face à un Manchester City qui était prenable. Et ça, c'est inexcusable. Et ça, c'est honteux. Et c'est ça qui fait mal aux supporters. Un supporter n'a jamais mal parce que son équipe perd. Un supporter a mal parce que son équipe ne fait pas ce qu'elle doit faire pour au moins présenter l'image qu'elle doit de son club.
Okay.
Ce que nous avons vu hier, excuse-moi Jean-Louis, mais en fait ce que j'ai dit pour Arsenal vaudrait pour n'importe quel club dans n'importe quel de nos championnats où tout simplement les joueurs ont décidé on jette l'éponge, on s'en fout. On s'en fout complètement. Et c'est ce qui s'est passé hier. Et c'était honteux.
Et t'as décidé, Philippe, donc d'insister là-dessus dans ton avis tranché.
J'ai largement insisté, même beaucoup trop.
Ouais. Parlons de l'actu, du championnat.
Oui.
Donc cette victoire de Manchester United face à Chelsea.
Elle est importante, hein.
Importante,
ah, énorme.
Et sans polémique. C'est incroyable avec ces deux équipes.
Oui,
tous les
oui, oui. Et même Mourinho qui fait un petit, qui passe la main dans les cheveux, les tout nouveaux cheveux de Antonio Conte à la fin.
J'ai trouvé c'était un chambrage subtil. Je sais pas si je me trompe, mais
subtil. Je sais pas, Jonathan, s'il était si subtil que ça, mais chambrage certainement. On n'a pas parlé de Pogba parce que Pogba était bon et Pogba fait son match.
Il a fait son match, ouais.
Il a fait son match. On parle de Romelu Lukaku, qui est un joueur que moi j'adore et que je n'ai cessé de, il ne s'agit pas de défendre, simplement d'essayer d'expliquer de quoi il s'agit, mais qui fait un très très gros match, marque un but qui n'est pas évident à marquer du tout, fait une très belle passe décisive pour Jesse Lingard. Mais alors évidemment les conséquences sur le championnat sont conséquentes parce que regarde, rappelle-moi Jean-Louis, quelles sont les positions au championnat d'Angleterre. Après cette victoire 2-1 de Manchester United, il y a une équipe qui s'appelle Chelsea qui se sent pas si bien que cela du tout. Ouais. Parce qu'il y avait beaucoup... Liverpool était passé devant Manchester United après sa victoire, très impressionnante d'ailleurs, sur West Ham par 4-1 le samedi. Était passé à la deuxième place. Manchester United est repassé second, mais tout d'un coup Chelsea se retrouve...
Est à 6 points de Manchester United, 5e.
Oui, et se retrouve en dehors du top 4. Ce qui ne simplifie pas la tâche d'Antonio Conte.
En compte, ils n'ont qu'une place d'avance sur Arsenal.
Oui, mais enfin, Arsenal, tu m'as pas dit à combien de points ils étaient, par contre.
Non, hein, ils sont à 8 points, oui.
Merci beaucoup, mon cher Jean-Louis. Et donc, ça va avoir bien évidemment une influence sur le choc à venir entre Barcelone et Chelsea au Camp Nou en 8e de finale retour de la Ligue des Champions.
Très bon Lukaku, effectivement, un but, une passe D. Hein.
Ah oui, il a été franchement formidable. Formidable et il progresse sans arrêt et. Et
même sa conduite de balle a l'air différente par rapport à
oui, non, mais sa conduite de balle, mais tu vois également
ce qu'il fait sur la passe là, sur le deuxième but, c'est vrai que c'est magnifique.
Ah ben c'est formidable. Tu vois d'abord il y a l'appel, il y a aussi l'intelligence. Je le trouve vraiment très astucieux dans ses choix et j'aime beaucoup ce qu'il fait avec Anthony Martial. Anthony Martial qui lui délivre la passe décisive pour le premier but, le but de l'égalisation après celui de Willian. Et franchement Lukaku. Ça se passe bien. Et Mourinho, là, par contre, il n'y a rien à dire. Autant l'équipe qu'on avait vue contre Séville était une équipe qui était triste ou nette à voir, qui était négative. Ouais. Celle qu'on a vue contre Chelsea, c'était davantage le Manchester United que l'on pourrait espérer.
Ouais. Très bien. Philippe, pour conclure l'Angleterre, je te laisse 30 secondes pour nous dire un peu Guardiola, ses propos qui font beaucoup réagir en Angleterre.
Oui, non, mais je pense qu'on en reparlera un autre moment parce que moi également, ça me fait beaucoup réagir. Guardiola s'est servi de la conférence de presse d'après la victoire, sa première victoire en Angleterre dans une compétition pour faire une espèce de... Il est monté sur sa boîte à savon, il a fait une propagande pro.
Du prosélytisme pur et dur, hein.
Non mais là franchement moi je peux te dire j'étais écœuré, je me suis retenu pour ne pas parler. On reparlera de Guardiola, immense entraîneur, génie, mais hypocrite total pour ce qui est de ses positions politiques.
C'était ni lieu ni l'endroit en plus, Philippe.
C'était pour défendre l'indépendance de la Catalogne.
C'était un prosélytisme absolu. Oui. Et sur lequel.
Mais on prendra le temps, Philippe,
On prendra le temps d'y revenir parce que je voudrais.
C'est la haine de l'Espagne, en fait. Et de donner une image de l'Espagne, comme en gros présenter l'Espagne comme une dictature.
Oui, mais on en reparlera et je me placerai peut-être sur un point de vue différent de celui-là. Je voudrais juste vous signaler un record de Premier League qui a été établi ce week-end, qui est quand même assez exceptionnel.
Vas-y.
C'est celui du nombre de fausses touches en un match.
Ah oui. Ah oui.
Et il est magnifique. Trois fausses touches en un match par le même joueur, ça ne s'était jamais vu.
Il est joueur.
Serge Aurier, bravo.
Elle est trop gaze.
Nous dans l'after,
il y en a une. une, il y en a une en particulier.
Ouais, on les a vus.
Il a les deux pieds qui sont soulevés et qui sont au-dessus de la ligne. C'est extraordinaire.
Donc, Philippe, tu parlais tout à l'heure d'une catégorie qui n'existe plus, c'est les pupilles, puisque maintenant c'est les U11, U12, etc.
Mais
ça ressemblait à des touches de même pas, de poussins.
C'est là qu'on apprend.
De poussins.
Les touches.
Et les poules sont bien ensemble. Les petits poussins
qui sortent de l'œuf.
On a plus le temps parce qu'on a trois pays derrière là. Il reste que 40 minutes d'after. On arrive dans un instant avec le foot espagnol, le foot allemand, le foot italien, avec les avis tranchés de l'after. À tout de suite.
RMC, le super football show. L'After Foot, Jean-Louis Tour.
Avec Pierre Ducrot ce soir et Jonathan McCarty. Il est 23h23 dans l'After sur RMC, sur BFM Sport. Nous sommes avec nos drôles de dames. On a fait le foot anglais avec Philippe Auclair, avant l'Allemagne, avant l'Italie, avec peut-être un petit retournement de veste de Simone Rovera. On en parlera dans son avis tranché. Place à l'Espagne. Jingle Fred Hermel.
Fred Hermel, demandez-lui la simulation, ça l'a pas toujours gêné.
Voilà, très bien. L'humour c'est toujours bien, aussi fin de Daniel Riolo. Ouais,
ouais. Fred, quand il n'est pas là, il est là.
Exactement. Tu veux nous parler de tes vedettes, de tes stars.
Alors, vous savez, il y a un jour un mec très intelligent, dont j'ai oublié le nom, qui a dit « Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude ». Et j'ai eu beaucoup de doutes aujourd'hui à l'heure de faire mon avis tranché. Je me suis dit « Tiens, je vais pousser un coup de gueule et puis je vais parler de Nico Gaitán et surtout de Yannick Carrasco ». Comme quand même de bons joueurs, hein. C'est pas n'importe qui, surtout Carrasco, qui jouait à l'Atlético de Madrid. Ah ben non, ils partent en Chine. Puis je me suis dit, que des mecs comme ça partent en Chine, c'est leur problème et puis on va pas les regretter, quoi. Voilà, après, ils vont faire du fric, etc. Donc je vais plutôt parler des gens qui animent le championnat, plutôt de parler des gens qui animeront la prochaine Coupe du Monde. Alors je sais pas si vous vous souvenez, vous êtes un petit peu jeune, mais en 1984, j'étais ado, il y a un film qui s'appelait Histoire sans fin, avec une chanson de Lee Mile. Never ending story, na 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 na.
Et ben là, c'est je bon, vous dire c'est que magnifique, c'est un de mes films préférés.
C'est sublime. Et ben moi, j'ai depuis quelques semaines, j'ai l'impression que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, c'est l'histoire sans fin. On pensait les enterrer et puis ça revient toujours. Et c'est pas uniquement pour ce week-end. Simplement, il y a eu peut-être un petit aliment des planètes qui fait que je suis obligé de parler d'eux et de parler d'Antoine Griezmann aussi, qui sont peut-être à l'heure actuelle, qui sont à l'heure actuelle les trois meilleurs joueurs de la Liga et peut-être trois des meilleurs joueurs du monde, ou sûrement trois des meilleurs joueurs du monde, parce que c'est un retour à une normalité qu'on sent depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. Ça a commencé par Lionel Messi, qui a dû se réadapter avec le départ de Neymar. Il a fallu changer le système. On en a souvent parlé en 4-4-2. Et je vous l'avais dit déjà, attention, Messi est en train de redevenir très très fort. Et là, je pense qu'il a jamais été aussi fort de sa vie. Alors le match qu'il a fait contre Gérone ce week-end, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il est imparable. Et quand il prend le ballon, quand il tourne autour de la défense avec son pied gauche, et puis qu'il met dans la lucarne. Et on a l'impression plus qu'avec un milieu renforcé comme il y a aujourd'hui, parce qu'il y a un 4-4-2, qu'il est... Il est vraiment libre de tout, quoi, de tout. Il fait vraiment ce qu'il veut derrière un type de pointe qui s'entend bien, qui s'appelle Suarez. Et puis il y a Cristiano Ronaldo. Ouais, Ronaldo, c'est la fin quand même. Hein. C'est un joueur quand même. Ah bah non. Eh bah non. Eh bah Cristiano Ronaldo, c'était dur le début de la saison parce qu'il a été suspendu 5 matchs. Ça a un peu dérangé son lancement de saison. Et puis là, il est en train de redevenir le Cristiano Ronaldo qu'on avait revu quand l'an dernier, à partir du 8e de finale de la Ligue des Champions, comme par hasard. Et puis c'est un Cristiano Ronaldo Messi marque 2 buts, mais Cristiano Ronaldo, il en marque 2 aussi. Et puis il est tellement bien, il se sent tellement bien qu'il est un petit peu moins obsédé par les statistiques. Il y a un pénalty 89e. Oh, il aurait pu marquer le 300e but de sa carrière au Real Madrid en Liga. Il aurait pu marquer le 50e hat-trick de sa carrière de joueur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se sent tellement bien qu'il laisse la balle à Karim Benzema, qui a plus besoin de lui de marquer un but. Et Karim Benzema marque le but. Et puis rappelez-vous Griezmann. Alors Griezmann, c'était foutu. Griezmann, on se dit, de toute façon tout le monde sait. Et c'est vrai qu'il a de grandes chances de partir en fin de saison de l'Atlético. Il a été sifflé, rappelez-vous, lors du derby contre le Real par le public. Avant Noël, t'avais un certain Simeone qui faisait des yeux doux, qui ne parlait que Diego Costa. C'est normal. Costa allait pouvoir jouer avec l'Atlético à partir du mois de janvier. Et puis on oubliait un petit peu Griezmann, et puis il y avait des petits mots comme des petites allusions pas terribles, comme c'est le faire parfois Simeone, qui n'est pas toujours quelqu'un de très sympathique, même d'ailleurs rarement quelqu'un de sympathique. Et puis là Griezmann, il a encore 4-5 mois à jouer là avec l'Atlético, il est à fond. Qu'est-ce qu'il a fait là, depuis des semaines? Eh ben, il joue bien. Il défend comme un malade. Et puis, maintenant qu'il y a Costa et que l'Atlético joue en 4-4-2 là aussi, et puis il y a Costa, un vrai neuf de différence, de référence devant lui, qui lui permet d'être lui aussi, Griezmann, d'être libre derrière. Et on le sait, on le voit en équipe de France, quand il peut tourner derrière un attaquant de pointe en référence, ben Griezmann, il est super. Et qu'est-ce qu'il nous a fait hier soir, Griezmann? Alors que ça fait plusieurs matchs où il est très bon. Eh ben, il a marqué un triplé et puis il a fait une passe décisive. Ben voilà, les amis, j'ai plutôt que de parler de deux mecs dont tout le monde va oublier parce qu'ils sont partis en Chine faire de l'argent, ben je préfère parler de trois extraordinaires joueurs qu'on souvent on pense que leur saison est terminée, que leur carrière va sur la pente descendante. Eh ben non, ils sont toujours là et ils sont meilleurs que nous que jamais.
Jonathan, Pierre, qu'est-ce que vous pensez de David Frey?
Ouais, déjà, moi, Gaëtan, ça me fait un peu de la peine parce qu'il était censé retourner à Boca et il file en Chine parce que justement, il n'y a pas eu d'entente avec
le club Boca.
C'est ça, en fait, le principe. C'est apparemment, il y va pour faire un an. Tevez l'a appelé, lui a dit qu'il allait tomber en dépression comme lui, donc c'est un peu effrénant. Mais les trois joueurs reviennent vraiment au top de leur forme et puis, c'est inquiétant pour, Cristiano, vraiment. Moi, avant la double confrontation, je pensais que le Real était favori. Je pense que j'ai été un des seuls à dire que le joueur et le Real passaient. Mais parce que c'est des joueurs. Enfin, ok, Cristiano ne sera jamais aussi performant qu'avant parce que l'âge, voilà, tu rajeunis pas. Mais tu sais que ces joueurs-là, au printemps, c'est des tueurs. En plus, avec le préparateur, le malade qu'il a, le malade mental, au bon sens du terme qu'il a, qui le prépare physiquement au Real, Pintus, là, c'est des horloges, ces mecs-là.
Exactement. Ouais, horloge, c'est le terme.
Ils se préparent,
des horloges bien réglées, hein.
Pierre. Après, en plus, il se gère mieux qu'avant.
Joe était pas le seul à dire que le Real était favori. C'était très partagé et ça reste très partagé. Ces joueurs-là, enfin moi, c'est tout sauf une surprise de savoir que ces joueurs-là sont là au rendez-vous aussi à ce moment-là de la journée de la saison. C'est une évidence. Voilà, c'est une évidence. C'est à ce moment-là de la saison jusqu'à la fin de la saison qu'on attend ces joueurs-là de toute manière.
Le bémol sur ce que tu dis, Fred, c'est que par contre, Messi, il pourrait être aussi bien que ce qu'il est actuellement au Barça, prêt pour la Coupe du Monde. Alors là, ça reste une interrogation, parce que quand tu vois l'état de sa sélection, il pourrait arriver en étant dans la forme de sa vie. Je sais pas ce que ça pourra donner. Hein.
Ouais. Ah non, mais la sélection, j'en sais rien. Moi, je parle des joueurs. Ouais, les trois joueurs-là, le Mondial, c'est dans moins de 4 mois. Et là, ils sont lancés, ils sont deux amis. Alors, pourquoi je parlais de Griezmann? Parce qu'il est extraordinaire en ce moment, puis parce que c'est très rassurant pour l'équipe de France. Parce que le gros risque, les amis, c'est que un Griezmann, qui en avait plus rien à foutre de l'Atletico, qui aurait pu être un petit peu borduré...
Tu penses que c'est dans son caractère, Fred?
Non, mais c'est possible, parce que je peux te dire qu'avec Simeone, ça se passait pas très bien, là, avant Noël.
Okay.
Et ben Griezmann, lui, il a pris le club Joff, il bosse comme un malade, et donc, il reste sur... Il est vraiment sur une dynamique de compétition. Et un joueur qui arrive au Mondial après 4-5 mois, il a rien à foutre de ce qu'il fait en club, il peut pas être bon. Alors que lui, il est vraiment dans une dynamique qu'il faut, quoi.
Dis-moi, Fred, où en sont les blessés du Real qui joueront pas jusqu'à la veille et qui seront tous là contre le PSG?
Je t'arrête tout de suite.
Oui.
Parce que tu connais le Real, tu connais Zidane, et là le bluff c'est vraiment pas leur truc. D'accord. C'est pas leur. Alors il y a des clubs comme ça, c'est pas leur truc.
Vraiment?
Alors je vais vous donner les informations.
Oui.
Marcelo et Modric devraient être là. C'est-à-dire que ce qu'ils ont, c'est une petite déchirure de grade 1, vraiment une petite lésion. A priori, ils pourraient reprendre l'entraînement mercredi. Kroos, l'entorse au genou, c'est un petit peu plus compliqué, donc il y aura une incertitude de jusqu'au bout. Mais Zidane, vu en plus l'état de son effectif, où il y a vraiment des alternatives super, comme
Asensio,
comme Kovacic, bah, ou pour Kroos, c'est Kovacic qui fait encore un bon match ce week-end, qui a fait un bon match à Leganés l'autre jour. Le Zidane, dans sa tête, et c'est ce qu'il a dit aujourd'hui en conférence de presse, c'est que si ces joueurs ne sont pas capable de reprendre l'entraînement cette semaine et ne peuvent pas jouer quelques minutes contre Retafe samedi soir, il estime que le match contre le PSG sera trop dur pour eux. Donc il n'y a pas de bluff jusqu'à la dernière minute. C'est-à-dire que samedi soir, on saura ceux qui vont être du voyage ou pas. Si deux sur trois, sur un sur trois ou sur zéro, voilà, participent au match contre Retafe, ils seront du voyage. Ça sera quand? Ça sera lundi matin pour jouer contre le PSG mardi soir. Mais a priori, le staff est plutôt optimiste sur les blessures de Modric et de Marcelo.
Ok, autre chose dans l'actu. Non, bah alors du coup les départs en Chine, pardon.
Oui, bah voilà, c'était ça. Non, parce que c'était dans les tuyaux depuis quelques jours. Voilà. Après Carrasco, Gaëtan, c'est mon petit joueur, mais Carrasco, c'est quand même un type hyper talentueux.
C'est bizarre, en fait.
Ouais, mais c'est
parce que Gaëtan, je peux le comprendre. Il a tout fait pour retourner à Boca. Il voulait y retourner.
Là, Carrasco,
cette
il a 24 ans.
Carrasco, il est plus jeune. C'est quoi, c'est que Carrasco, il a 24 ans.
Franchement, il a une attitude de merde. Moi, je l'ai vu sortir dans les matchs. Vraiment, alors que l'Atlético était mené, il a un melon pas possible. Il faisait la tête parce qu'il était sorti à 75e le jeu.
Et surtout,
ça peut être normal. Enfin, il a jamais rien fait pour triompher en Liga, quoi. Avec ses caractéristiques et avec l'Atlético, avec un coach comme Simeone, bah, il aurait pu progresser énormément. Simeone, il m'énerve sur plein de trucs, mais quand on voit l'évolution de Griezmann ces dernières années.
Il fait progresser les joueurs, ça c'est sûr. Hein.
Et lui, plein d'autres. Et Carrasco n'a pas progressé avec
au début,
Simeone.
Un peu. Mais bon,
au début, oui.
Quand il arrive,
c'est un feu de paille pendant 6 mois, quoi.
On parle en plus d'un transfert de 30 millions d'euros. C'est quand même pas grand chose, quoi.
Non.
Bah, après, 7,5 millions qui devraient aller à Monaco, d'ailleurs.
Exactement, oui. Bah oui, exactement. Parce que c'est bon, toujours dans les histoires de contrats, etc., quand il y a des reventes. Donc c'est pas énorme comme transfert. Après, l'Atlético, on s'enlève un gros salaire, hein, donc voilà, c'est une opération. Puis après, bon, bah, je pense que Simeone lui avait mis une croix dessus en disant, voilà, de toute façon, ce type-là, il pourra pas me donner plus, donc
gâchis,
autant. Ouais, c'est franchement autant Gaëtan. Bon, voilà, mais Carrasco, c'est du gâchis. Mais c'est quelqu'un en plus, voilà, je vais pas faire le côté journaliste, etc. Mais bon, il est francophone, etc. On n'a jamais, en 3 ans, nous les correspondants ici, on n'a jamais pu avoir un brin de parole avec lui. Enfin, c'est un type qui faisait la gueule. C'est franchement, c'était bon débarras.
Il va gagner combien là-bas?
Ah bah, il a gagné beaucoup d'argent.
Voilà, vous avez une idée de son salaire?
Non, mais c'est super tôt.
Non, mais
que
tu fasses l'argent à 30 ans, allez.
Mais c'est trop tôt, il peut en faire.
La Belgique, quoi. Alors, la question, c'est par rapport à la sélection belge, quoi.
Ouais.
Et puis
de l'argent, Fred, il peut en faire, alors peut-être pas autant, mais beaucoup. Ailleurs et dans un championnat
il faut où ça va rester comme une chance quoi.
Je pense qu'il était payé quand même.
Je me permettrai pas de juger et surtout je suis curieux de savoir quel salaire il a. S'il a vraiment eu un pont d'or, écoute, si le foot c'est pas sa priorité, qu'il a juste envie d'aller cachetonner et d'arrêter au plus vite pour faire autre chose, c'est son choix.
Oui, c'est son choix. Excuse-nous d'être triste et de.
C'est son choix et je peux le comprendre même.
C'est pas.
Pour la sélection.
Il a 29 ans, il a 28 ans, mais oui. Il est parti en janvier dernier, donc.
Mais c'est déjà plus pareil à 28-29 qu'à 24, quoi. C'est super tôt.
Ça devient non, toujours
comme tu dis, le seul choix, c'est le sien. Il fait ce qu'il veut. Il y a pas de souci. On porte pas de jugement. On dit juste que c'est spécial.
J'ai jamais eu l'impression que c'était un joueur foncièrement amoureux du métier de footballeur.
Je sais pas, mais
c'est l'impression de se retrouver un peu nonchalant.
Peut-être il y en a un comme ça qui s'appelait Rivaldo, qui détestait le foot. Il a joué jusqu'à 45 ans.
Non, mais si tu détestes le foot, il y a un moment, t'aimes bien, t'as envie de gagner des titres, t'as envie quand même d'aller loin, t'as envie de faire quelque chose de ta carrière.
Mais moi, je suis d'accord, il peut trouver un
très bon club européen, quoi. Tu vois, il va gagner de l'argent et il va s'éclater.
Il est déjà dans un très bon club européen et il gagne déjà beaucoup d'argent, l'Atlético. Mais après, il faut bosser.
Il empêche qu'il revienne, 24 ans.
Oui, c'est vrai, dans 2 ans, bien sûr.
Je le vois pas.
Attends, non, mais après, on va laisser la parole aux copains. Mais attends, tu crois qu'en Chine, quand t'as 24 ans, tu progresses?
Non.
C'est pas possible.
Non.
Non, mais
c'est sûr, ça, mais bon.
S'il a pas progressé avec Simeone,
il n'y a pas Paulinho, par exemple.
Attends, Philippe, qu'est-ce que tu disais, Simeone?
S'il a pas progressé sous Simeone, je ne sais pas s'il pouvait progresser ailleurs.
Ouais. C'est une très bonne remarque, déjà, ce qu'a dit Philippe, là.
Non, mais j'allais dire, est-ce qu'il peut. Je me faisais l'avocat du diable parce que je suis totalement d'accord, mais est-ce qu'il peut faire une trajectoire à la Paulinho? Que Paulinho, il est sorti de Tottenham où tout le monde pensait qu'il était complètement fini, terminé. Il est allé en Chine, il est revenu, il est allé à Barcelone. Bon, il a loupé son match contre Chelsea, mais
c'est le pire de l'équipe du Barça.
Il fait une bonne saison.
Ah non, il fait une bonne saison. Non, mais c'est la bonne surprise. Hein.
Donc la Chine n'est plus le cimetière des éléphants.
Okay.
Peut-être qu'il va falloir qu'on change peut-être notre façon de penser également.
Non, mais attends, le niveau, j'avais parlé avec un entraîneur l'autre jour, c'est niveau 3e division.
Non, mais c'est vrai. Moi, messieurs, je suis pas d'accord avec vous parce qu'on se base là sur deux 2-3 miracles qui sont arrivés ou 2-3 exceptions.
Voilà,
ouais. Mais de règle générale, quand tu vas mettre les pieds là-bas, surtout pendant 2 ou 3 ans, tu reviens pas au Barça en général.
Yifang. Au Dalian.
Désolé.
Yifang.
Oui, oui, non, mais c'est vrai. Mais quand même, là où Philippe a raison, c'est qu'on n'est pas habitué à avoir des joueurs aussi jeunes qui partent dans ces championnats-là. Donc, ils ont la possibilité de revenir, vu qu'ils sont partis aussi jeunes. Leur carrière, elle s'étend quand même jusqu'à 35 ans, même si tu vas en Chine.
Tu reviens, mais t'es pas dans une logique de progression de carrière.
Non, mais tu peux quand même.
Bien sûr que tu peux revenir et tu reviens. C'est très très rare. L'exemple de Paulinho est très rare.
Ouais. Comment s'appelle les Martinez, lui qui allait à Villarreal, qui était au Juventus.
Roger Martinez.
Il revient, il a fait une parenthèse, il a pris du pognon. Mais
il est resté combien de temps là-bas? Il est resté combien de temps?
Un an et demi. Ouais. Chose comme ça.
Ouais, c'est du Valverde, du Colombien, du Racing.
Regardez, Younes El Arabi. Il est revenu. Je sais même pas où il est passé.
Rappelez, il était pas mal.
Il est parti à 24 ans à Al Hilal. Maintenant, il est à Dubaï. Bon, voilà. Donc lui, il n'est jamais revenu.
Oui, donc il est pas revenu.
Non, exactement. Non, mais je savais que ça.
J'adorais cet attaquant.
Ah oui,
il était spectaculaire. Ancien joueur de futsal, c'est lui là qui était à Caen.
Il en est à 50 buts en 37 matchs à Al Dubaï.
Mais surtout, il mettait aucun but. J'ai jamais vu mettre un but match.
Et voilà. Bon, messieurs, on enchaîne dans un instant avec Simone Rovera qui va nous parler de Gennaro Gattuso, la vie tranchée de David Lorto à venir. David, je compte sur toi aussi pour les infos autour de Kingsley Coman.
Bien sûr,
sa blessure a été officialisée il y a quelques minutes par le Bayern. A tout de suite dans l'after jusqu'à minuit.
RMC, le super football show. L'After Foot, Jean-Louis Tour.
Avec Pierre Ducrot, Jonathan Macardy et nos drôles de dames, Philippe Auclair, Fred Hermel, David Lorto, Simone Rovera.
Allô.
Oui, allô. Philippe.
Ah, excusez-moi, je ne pensais que vous m'entendiez pas.
Je suis très bien.
Ah oui, non, d'accord, je croyais que tu avais un message très important à nous faire parvenir.
Oui, en ce sens qu'il y a énormément, je découvre les unes des journaux anglais de demain, les unes des sportives. Et la plupart sont sur le remplacement d'Arsène Wenger.
Ah d'accord, ok. Alors voilà, attendez.
Je songeais donc qu'il était important de vous faire savoir que de nos amis, du côté de nos amis anglais, même si ça s'excite un petit peu trop rapidement, comme d'habitude, on parlait d'un certain Jardim, par exemple.
D'accord, mais pour cet été?
Oui, pour cet été. Avant la fin de saison, c'est impossible.
Très bien.
Alors, ce serait un manque de respect absolu vis-à-vis d'un grand entraîneur.
Avant d'enchaîner avec l'Italie, avec Simone, déjà je salue Alexane qui m'a envoyé les propos de Carrasco qui explique son départ et qui dit quand même « Le projet de développement sportif du groupe m'a convaincu et a motivé ma décision. De nouvelles infrastructures modernes sont à disposition pour mon épanouissement. » Donc il part pour le projet sportif.
Oui, bah comme
moi,
tout
ça. Moi ça m'emmerde ça.
Il a ajouté le cours du Red Bull.
Je peux le comprendre.
Pas tous en même temps, pas tous en même temps. Et en fait, il dit qu'en fait c'est le groupe Wanda qui est propriétaire du groupe Dalian là et qui est propriétaire du stade de l'Atlético.
Donc en gros. Non, attention. Wanda, non parce que il y a depuis 3 semaines, Wanda n'est plus actionnaire de l'Atlético. Puisque les 25% ont été rachetés par un homme d'affaires israélien. Wanda n'a plus aucun argent dans l'Atlético.
D'accord,
mais le stade s'appelle comment?
Oui, parce que le contrat avait été signé, etc. Le nom reste. Oui, oui. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun pouvoir de décision.
Il a dit qu'il était en contact avec le groupe et ils ont toujours envie d'investir en Chine.
J'espère que ça changera, parce que c'est moche comme nom.
Oui, mais vous savez pourquoi attention, ce groupe, parce que Wanda a vendu ses parts de l'Atlético à un industriel israélien, parce que le groupe est extrêmement endetté, avait besoin de liquidité, donc ils sont en train de vendre. C'est un groupe immobilier, tu veux plein de trucs, c'est un réseau, tout ça.
Mais Wanda, c'est pas le nom d'un poisson, plutôt?
Bravo, Philippe. Je me demandais depuis tout à l'heure comment j'allais la placer, mais t'as été meilleur. Bravo, Philippe.
Ah, désolé, Jean-Louis.
Messieurs, alerte cheville de Neymar. Le PSG vient de communiquer. Les examens complémentaires effectués ce jour, une échographie et un scanner, ont confirmé une entorse antéro-externe de la cheville droite, mais également l'existence associée d'une fissure du cinquième métatarse.
Je me tourne vers
Pierre Ducrot.
Moi, je me demande déjà ce qu'antéro a à voir là-dedans.
Ah, j'étais sûr. Non, mais je me tourne vers toi pour être un peu sérieux.
Mais
parce que t'as été joueur
écrit sur mon antéro oral.
Non, c'est ça que je voulais savoir.
Non, excusez-moi. Là, stop. Non, mais donc, c'est grave, c'est pas grave. Pierre, t'as déjà eu des entorses de la cheville?
Fissure, moi, j'aime pas ça, moi. Après, il y a des fois des fissures que tu découvres lors d'examens qui sont là depuis un petit moment finalement et que t'avais pas vu forcément avant. Ça dépend du type de fissure. C'est toujours compliqué de on n'est pas médecin, mais c'est toujours compliqué sans voir les examens de pouvoir se prononcer. Mais je pense que ce serait mieux sans fissure quand même.
Oui. Ouais, mais il y a une fissure là. Et quant à Marquinhos, l'échographie a confirmé une lésion musculaire de grade 1 du quadriceps gauche.
Tu vois là, ce serait mieux sans lésion.
Il sera comme ceux du Real.
Là, non, non,
mais
ouais,
que le Real, ça s'est produit à 15 jours du match.
Grade 1.
Ouais, mais bon, c'est dans combien de temps?
10 jours à peu près.
Ouais, 9 jours, un peu de sang de cheval.
Non, mais à la limite, Marquinhos.
Plasma, non,
tu l'as en Chine en passant par Dubaï.
Messieurs, pas tous en même temps.
Même pas ça, tu injectes du plasma, ça aide, mais c'est peut-être un peu court, quoi.
Non, mais à ce poste-là, si t'as Kimpembe, Thiago Silva, c'est pas bien grave. C'est Neymar, oui, c'est plus embêtant.
C'est pas le plus embêtant.
Messieurs, l'Italie, on y va. Jingle, Simone Rovera.
S'il y avait encore Leonardo, hier soir, il savait déjà qu'est-ce qui est sorti dans la Gazzetta. Il appelait l'agent et te dit, vous, les joueurs, les agents, tout le monde ferme sa gueule jusqu'à la fin de la saison.
Et toi, t'es devenu fan de Gattuso.
Mais oui, mais non, mais j'ai toujours été fan des Gattuso.
Bah,
j'ai,
oui,
j'ai été seulement en fait, douteux sur ses qualités d'entraîneur.
Tu n'étais pas douteux, tu nous disais c'est une aspirine ou...
Je disais c'est une aspirine, mais Milan est gravement malade. Là, il est beaucoup mieux qu'une aspirine. Il est... je sais pas, je dis pas que c'est la cure... C'est
une cure miracle.
Oui, oui, c'était la meilleure chose au meilleur moment pour ces Milan. Et c'est pas seulement parce qu'il est, il incarne l'ADN de ce club, pas seulement parce qu'il fait la gueule pendant l'entraînement si quelqu'un baisse un peu des régimes. C'est parce qu'il sait, il est vraiment un entraîneur à 100%. Peut-être ses premières expériences n'étaient pas extraordinaires, même s'il fait une bonne saison à Pisa il y a 2 ans en faisant monter le club de la 3e à la 2e division. Mais là, il a fait des choses, comme on dirait aujourd'hui, simples et basiques pour mettre. Pour changer toutes les dimensions du Milan. Il venait d'une situation catastrophique. Ses premiers pas ont été un désastre. Tout le monde se rappelle les premiers matchs, les 2 partout à Benevento, face à un club qui ne gagnait pas de match, faisait pas des points, et l'égalisation en dernière instant du gardien. Donc, c'était une blague, ses premiers pas dans le monde Milan. Aujourd'hui, après ces derbies des Coupes d'Italie, il a enchaîné quelque chose comme 12 matchs, 8 victoires, 4 matchs nuls, 8 matchs sans encaisser de but, dont 5 consécutifs. Il a récupéré énormément de points sur la 4e place, il a récupéré énormément de points sur l'Inter, et il a trouvé, j'ai dit 4 choses, mais très simples pour changer la dimension du Milan, la situation du Milan. Première chose, il n'a pas changé la composition à chaque match. Il a son 11 titulaire. Il a son système de jeu, c'est un 4-3-3. C'est très simple. Tous les joueurs savent qu'est-ce qu'ils doivent faire. Il ne va pas changer les systèmes une match par l'autre pour trouver une situation, une solution à des problèmes. Il a compris qu'il fallait travailler. Il a fait énormément de doubles séances d'entraînement, surtout au début. Il a fait une semaine de mise verte quand les choses allaient mal en fin de décembre avec tous les joueurs. Double entraînement tous les jours. Il a une culture du travail. C'est pas un hasard qu'il y ait plusieurs joueurs. Les derniers, c'était hier soir, Franck Essi, après la victoire de Milan face à la Roma 2-0, qu'il a dit « Maintenant, on travaille. On n'a jamais travaillé comme ça. » C'est la même chose qu'il disait Souso en décembre, Coutrone, qui je trouve que c'est encore une des meilleures réussites de Gattuso comme entraîneur. Mettre ces gamins qui a 20 ans, qui a fait 20 ans en janvier, qui a marqué 14 buts cette saison, qu'il a lancé vraiment titulaire imboulonnable, qui hier soir dit « Aujourd'hui, on a une équipe et c'est le mérite de Gattuso. » T'as l'impression vraiment qu'il a trouvé un peu la solution à tous les problèmes. Oui, avec son esprit, quand tu as quelqu'un qui a passé 13 ans à Milanello, tu connais tous les secrets, tu connais tous les personnages qui travaillent là-bas, tu as la capacité de transmettre qu'est-ce que c'est Milan. Et aujourd'hui, Milan peut rêver une 4e place. Il a 7 points de l'Inter. Dimanche, il y a les derbies. Pourquoi pas? Ouais. Mais il y a quelques semaines, on n'aurait même pas imaginé le Milan capable de rêver quelque chose. Aujourd'hui, il va jouer en 8e de finale d'Europa League face à Arsenal. Je ne sais pas qui est les favoris, mais la dynamique dirait Milan, l'histoire dirait Milan, mais l'effectif dirait Arsenal, bien sûr. Si on regarde les joueurs, t'as pas des Aubameyang, t'as pas des Ozil, t'as des Coutrone, t'as des Souso. Mais Milan, aujourd'hui, t'as l'impression qu'elle peut tout faire. Et dans sa série de victoires et dans sa série sans défaite, il a battu quand même la Lazio, la Roma, il a joué face à la Fiorentina, l'Inter, donc la Sampdoria, il a battu des grands de cette Serie A. Et j'ai l'impression que Gattuso aujourd'hui, il entraîne aussi d'apprendre à être un bon entraîneur. Il fallait du temps, il a déjà une expérience derrière. Mais c'est aujourd'hui, il est un bon entraîneur et Milan doit poursuivre avec lui. Il est en fin de contrat cette saison. lui, c'est le premier qui dit je crois c'est beaucoup à la superstition. Tôt, donc, je ne veux pas signer un contrat maintenant. Mais il a montré d'être capable d'échanger les choses. Et c'est déjà, à mon avis, la meilleure victoire du Milan cette année, qui, je crois, peut encore s'élever des belles satisfactions.
C'est trop tôt. Tu regardes les deux mois qui vont arriver, là, pour le Milan, mais c'est un calendrier de malade mental. Ils vont jouer à l'Inter, Arsenal. Je crois qu'ils rejouent la Lazio, la Roma, ils jouent la Juve. Ils jouent Arsenal donc deux fois. Ils jouent la Juve aussi, hein, à la fin du mois, courant mars. Oui. Ils ont un calendrier de malade mental. Et en fait, c'est vrai que, ben, la série de victoires, elle est bien. Il y a eu des matchs qui sont convaincants. J'ai vu le match contre la Lazio. C'était un match que j'ai trouvé pas mal. Mais c'est pas une équipe qui a beaucoup de style, quoi. Ça repose sur très peu de choses, sur beaucoup de détermination, sur beaucoup de volonté, mais je vois pas grand chose. Et en fait, ça me permet de faire un peu le lien avec notre bonne vieille Ligue 1, mais j'ai l'impression que c'est Genesio quand il vient sauver Lyon. Qu'il arrive, il remet des choses simples et basiques, comme tu dis,
ah,
qui remotive un petit peu Genesio avait pour lui la proximité avec les jeunes
oui, du non, cru. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas les mêmes, il n'y a pas beaucoup de similitudes entre les deux,
mais
les
si,
deux
ça,
hommes,
c'est
quoi.
Le mec du cru qui arrive pour sauver un effectif qui est quand même talentueux, mais qui est un peu à la dérive par manque de motivation. Moi, je sais pas, je demande à voir, mais de là à dire que Milan doit continuer, je préférerais quand même un petit peu attendre, parce que là, sur les deux mois, ça poussait vraiment le moment de vérité.
Il faut voir qu'est-ce que ça arrive à d'ici la fin de la saison. Mais lui, il a tout montré d'être capable de gérer une situation compliquée. Moi, je demande de voir qu'est-ce que ça pourrait être en début de saison. Peut-être que c'est moins simple, peut-être que c'est plus simple. Mais je te jure, il y a des
Montella
joueurs.
Là aussi, ça veut bien commencer, Simone.
Oui, mais après, Montella avait bien commencé, mais cette saison, il n'arrivait pas à trouver la solution. J'ai l'impression que Montella, pour son jeu aussi des possessions, pour son jeu qui est un peu plus esthétique, un peu moins dynamique, il n'était pas bon pour ses Milan. Il est un très bon entraîneur que j'adore, mais ce n'était pas l'ombre de la situation. Gattuso est l'ombre de la situation. Je pense que s'il arrive à faire finir la saison bien comme il est en train de la vivre, il mérite cette deuxième saison. Parce qu'il y a des joueurs
qui
Bonucci qui était perdu aujourd'hui à retrouver son niveau. Bilia qui ne mettait pas un pied devant l'autre, c'est devenu une pièce qui fait tourner cette équipe. Et Çalhanoğlu qui était une inconnue de cette série.
Il est blessé aussi.
Mais donc, quand tu dis Simone. Quand tu dis Simone que ça peut amener de belles satisfactions au Milan, c'est pas pour cette saison, on est d'accord. C'est pour plus tard.
Tu joues mercredi la demi-finale retour des Coupes d'Italie.
C'est tout ce qu'il y a à jouer, on est d'accord.
Vous pouvez noter que Pierre a fait une micro-sieste. On a pendant deux minutes.
Je suis d'accord. Quand on a dit qu'il reste à 7 points de la 4ème place, c'est beaucoup. Moi, je t'ai dit, Milan peut encore arriver au
final. L'Inter n'est pas dans un très bon... Moi, je pense que c'est jouable. Mais après, quand tu dis si la fin de saison est gérée, il faut lui donner une deuxième saison, là, je suis d'accord. Mais moi, ce que je te dis, c'est que pour l'instant, il y a quand même tout à voir encore.
Ok. Bon, bah on va voir.
C'est surtout le calendrier, quoi.
On passe à l'Allemagne tout de suite, jingle l'Orto.
Je rappelle que l'Orto porte toujours aujourd'hui des vêtements uniquement fabriqués en RDA.
Et David a vite tranché sur Dortmund et Leipzig.
Et oui, alors je vais sortir un petit peu de l'expertise ce soir pour vous faire part d'un ressenti. C'est très à la mode chez les météorologues français, si j'ai bien compris, le ressenti. et faire le lien aussi avec ce que vous disiez à l'instant sur l'Europa League et donner peut-être un motif d'espoir supplémentaire au Milan qui fait partie des clubs encore qualifiés dans cette compétition. Vous n'êtes pas sans savoir, pour ce qui est de l'Allemagne, qu'il reste deux clubs qualifiés en Europa League, à savoir Dortmund, reversé de la Ligue des Champions, et le RB Leipzig, reversé lui aussi de la Ligue des Champions. Et mon avis tranché du soir, c'est que ces deux clubs, au moins en cette partie de la saison, au moins en ce moment, n'ont pas le niveau pour aller loin dans cette compétition, pour viser une finale ou une victoire finale. Je veux surtout pas sous-estimer ni rabaisser la valeur des deux clubs italiens qui étaient opposés à ces deux-là il y a quelques jours en Europa League, notamment parce que l'Atalanta, moi j'ai trouvé que c'était une équipe très intéressante et plutôt séduisante, et qu'elle a été battue de peu par le RB Leipzig, et d'autre part parce que Dortmund pardon, et d'autre part parce que Naples, je concède bien volontiers en suivant Simone que Naples avait un peu tiré un trait sur cette compétition, et que donc la qualification du club allemand que Naples affrontait est un peu en trompe-l'œil. Ce que j'ai vu ce week-end en ce qui concerne le RB Leipzig, qui a perdu chez lui face à Cologne, bon dernier du championnat, m'a plutôt déçu, voire plus que déçu. Le RB Leipzig depuis 2018, c'est 4 victoires, un nul, 4 défaites. Un bilan extrêmement ordinaire, et en tout cas beaucoup plus ordinaire que ce que cette équipe, vice-championne d'Allemagne, avait produit en 2017. Le RB Leipzig doit être en train de digérer un petit peu sa croissance et sa progression récente. Et aujourd'hui, on ne sent pas une équipe capable de se sortir les tripes, capable de contrer une équipe qui avait envie, comme ce week-end, le FC Cologne, pourtant dernier du championnat. Côté Dortmund, eh bien le match de ce soir m'a donné aussi un peu de grain à moudre. Parce que Dortmund a ouvert le score assez vite ce soir par Marco Reus. Et puis derrière, on sent pas le concept d'équipe, on sent pas le collectif capable de prendre le dessus, on sent pas la capacité à tuer le match. Il y avait bien Michy Batshuayi en attaque, mais il n'a pas marqué. Il y avait bien Reus, il y avait bien Götze, il y avait bien Schürrle, mais ces messieurs qui sont pourtant de très très haut niveau en Allemagne n'ont pas été capables non plus de mettre le 2-0. Et Dortmund s'est retrouvé égalisé par l'équipe d'Augsbourg, qui est une équipe de milieu de tableau en Allemagne, et a été très déçu ce soir, parce que Dortmund pouvait s'extraire un petit peu du peloton qui vise la deuxième place en Allemagne et prendre un peu le dessus. Et moi, ce que je crois, c'est que le niveau actuel de ces deux équipes, qui sont pourtant dans la hiérarchie en Allemagne des équipes très très haut derrière le Bayern, hein. Il y a Leipzig, il y a Dortmund, il y a Schalke, il y a Leverkusen et il y a Francfort en ce moment, qui sont de belles équipes. Et ben ces deux-là, à mon avis, auront une adversité trop forte, qu'elle soit espagnole, qu'elle soit italienne, qu'elle soit d'un autre pays, auront une adversité trop forte en Europa League pour aller au bout. Alors peut-être que je me mouille un peu vite. En tout cas, c'est le ressenti que j'ai en ce moment. Ces deux clubs me déçoivent et n'ont pas été capables d'enclencher la deuxième vitesse pour lutter vraiment contre les meilleures équipes européennes.
David, excuse-moi, mais c'est dingo. Tu nous parles. Tu as Michy Batshuayi qui est pas n'importe qui. Et surtout, tu as les trois derrière pour Borussia Dortmund, Reus, Götze, Schürrle.
Il y a du matériel, oui.
Incroyable. C'est clair, ouais.
Alors,
Piszczek encore dans cette équipe-là.
Comme tous les lundis, les gars.
Schmelzer est toujours là.
On est pris par le temps. Je voudrais, David, que tu aies quelques secondes pour nous parler de la blessure de Coman.
Oui, on aura l'occasion de reparler aussi de Dortmund et de Leipzig plus tard. Oui, absolument. Kingsley Coman est rentré ce week-end en remplacement de Franck Ribéry. Il me semble que c'est en deuxième période, alors je ne sais plus la minute exacte. Il a un mauvais coup à la cheville dans un contact avec un adversaire de Berlin. Berlin, équipe très accrocheuse par ailleurs et qui a joué assez dur, mais ça c'est normal. Qui a obtenu le 0-0 à Munich. Et Kingsley Coman sort sur un choc, touché à la cheville. On nous dit dans un premier temps au Bayern que c'est une petite torsion et ça sera pas bien grave et qu'il va revenir assez vite. Finalement, Kingsley Coman a déjà été opéré et va manquer plusieurs semaines. On n'a pas de date de retour précise. Il pourrait,
dans le pire des cas, il y a deux mois sûrs, d'absence.
Il pourrait manquer dans le pire des cas toute la fin de saison, et en tout cas même dans le meilleur des cas plusieurs semaines, absolument, Jean-Louis. Et du coup, Bayern, ça fait une petite inquiétude, parce que ça fait le premier vrai blessé. La seule alternative réelle à Kingsley Coman, c'est Franck Ribéry, même si James Rodriguez peut jouer aussi de ce côté-là.
Pour les Bleus aussi.
Bah oui, bien sûr,
puis,
bien sûr.
Voilà, pour les Bleus, c'est vrai que c'est un contre-coup, parce que encore une fois, il peut revenir avant la fin de saison. Allez. Mais c'est quand même inquiétant.
Messieurs, merci à tous. Merci les drôles de dames. On vous retrouve toute la semaine.
Bye bye.
Merci Pierre, merci. Salut, Jonathan.
Merci Jean-Louis.
Les afters reviennent cette semaine avec les quarts de finale de la Coupe de France, tous les matchs sur RMC en intégralité. Je vous rappelle les scores du soir. Lorient gagne 2-0 à Nancy en Ligue 2. Le Betis gagne 2-0 à Levante en Espagne. Un partout entre Dortmund et Augsbourg, on l'a dit, en Allemagne. Victoire de Naples 5-0 à Cagliari en Italie. L'info concernant Neymar, communiqué du PSG. Les examens complémentaires du jour ont confirmé une entorse antéro-externe de la cheville droite, mais également, c'est l'info en plus, l'existence d'une fissure du cinquième métatarse pour l'attaquant brésilien du PSG.
Cinquième métatarse, c'est sur l'orteil, ça.
Voilà, exactement. rmcsport.fr pour avoir plus d'infos, allez lire ça. Et bien sûr, dès qu'on a plus d'infos, on vous en parle demain dès 16h dans le Super Moscato Show, puis à 18h dans Team Duga sur RMC. D'ici là, hashtag RMC Live pour commenter tout ce que vous pouvez entendre sur le foot. Ciao.
RMC, le Super Football Show, l'After Foot.